Bien, ben, je voudrais aussi remercier les organisateurs parce que je pense que le problème auquel nous sommes confrontés est un problème qui continue et je pense aussi que malheureusement nous autres Suisses et nous autres Belges, nous avons une responsabilité particulière dans ces situations. Merci. Bien, alors dans le cadre de ce panel sur les patrimoines en péril, je voudrais prendre un petit peu de recul et me demander avec vous ce qu'est aujourd'hui ou ce que sont aujourd'hui les plus grands périls auxquels ce patrimoine africain est confronté. Et je pense qu'on a en fait l'embarras du choix. J'ai essayé de vous mettre quelques exemples et d'ailleurs certains recoupent ce que Colin Renfrew citait et qui viennent d'être rappelés. Plus que jamais, les grandes infrastructures, l'augmentation des surfaces cultivées. Quand on voit maintenant qu'il y a toute une série de pays peu riches en terres comme l'Inde ou la Chine qui achètent des terres pour les mettre en culture à travers l'Afrique, c'est un domaine encore plus crucial. L'urbanisation rapide, je vous rappelle que l'Afrique est la partie du monde où l'explosion urbaine est la plus grande. L'exploitation des ressources naturelles, développement touristique mal supervisé, on vient d'avoir un bel exemple avec Oumarou pour le Niger, surtout au Sahara, c'est d'ailleurs un des combats de Rudolf Cooper à ce propos-là. Le cadre législatif, ça a déjà été abordé plusieurs fois et on en reparlera sûrement dans les jours qui viennent. Le fait aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en général en Occident on a l'idée que l'Afrique c'est d'abord les grands animaux, donc la grande faune, la forêt tropicale, et donc il y a quand même globalement une plus grande mobilisation pour ça que pour le patrimoine culturel, ce qui en dit long aussi sur nos préjugés. Et bien sûr, la hausse continue du prix, qui n'est pas vraiment une surprise pour vous tous présents ici cet après-midi. Alors, en Afrique centrale, puisque je vous ai parlé plus particulièrement de l'Afrique centrale, j'ai mis en rouge les régions qui avaient été en noir, les points noirs, c'est les endroits où il y a eu au minimum des sondages. En rouge, les zones qui ont fait l'objet de l'un ou l'autre parcours, pas vraiment systématiquement de prospection. Vous vous rendez compte, si vous connaissez l'échelle et la taille de l'Afrique centrale, qu'il y a une surface qui est grande comme une fois et demie l'Europe, qui n'a jamais vu le passage d'un archéologue. Donc, comme le disait Nick David il y a 30 ans, ça reste toujours vrai, c'est probablement une des parties du monde qui, archéologiquement, est le moins connue. Alors, en Afrique centrale, les menaces sont, on peut transposer la liste très générale que je vous offrais il y a un instant. Les grands travaux d'infrastructure font très rarement l'objet de surveillance, sauf au Cameroun et il y a une amorce au Gabon. L'explosion urbaine, contrairement à ce qui se passait précédemment, n'a permis de redécouvrir pratiquement aucun nouveau site, sauf grâce au travail de Jean-Paul Ndanga, il y a une exception à Bangui. Des sites rupestres importants qui avaient notamment été visités lors du 4e congrès panafricain de préhistoire en 1958 ont été détruits, je pense au site de Mbafou, par l'exploitation du calcaire pour les ciments. Bizar, dans le nord du Cameroun, même chose. Les pillages des cimetières de Lupemba, où j'ai fait ma thèse, ont repris et je sais qu'il y a un certain nombre de bijoux même qui arrivent sur le marché à Bruxelles. Les musées, à part l'exemple merveilleux de résilience du musée de Lubumbashi, qui grâce à son conservateur a continué à être plus ou moins préservé et à fonctionner à travers toutes les vicissitudes que la RDC Zaïre a connues. Libreville, où il y a un musée quand même en activité. En Angola, où il y a aussi une tradition particulière. Mais en dehors de ça, les musées ne sont pas des endroits sur lesquels on peut s'appuyer beaucoup, puisqu'ils sont quasiment inexistants. Et nous savons bien que pour cette région plus grande que l'Europe, grande comme les deux tiers des États-Unis, eh bien, il y a peut-être une douzaine ou une demi-douzaine d'archéologues actifs. Et bien sûr, et ça je pense que c'est un des aspects qui doit le plus nous interpeller, c'est le désintérêt globalement des décideurs. Et je crois que dans les réflexions de ces jours-ci, ça doit être vraiment un des projets et un des aspects principaux de notre réflexion. Alors, plutôt avant d'arriver là, ça fait personnellement une quarantaine d'années que je suis impliqué à de multiples titres dans les problèmes dont nous débattons ces jours-ci. Et en tous les cas, comme je viens de vous le dire, en ce qui concerne l'Afrique centrale, eh bien, il n'y a pas raison d'avoir beaucoup de motifs de satisfaction. Un certain nombre de choses ont certainement changé. Mais au total, la mémoire de l'Afrique centrale, comme d'une bonne partie du continent, reste extrêmement en danger, reste extrêmement menacée. Je crois que beaucoup de nos efforts, malheureusement, soyons modestes, sont restés vains. Et par ailleurs, je pense qu'il faut qu'on se défende, qu'on se garde d'un manichéisme réducteur. Nous connaissons tous des marchands ou des collectionneurs qui, animés, on l'a évoqué déjà ce matin, par la passion de l'art africain, sont à la fois d'excellents experts et parfois bien meilleurs experts que nous-mêmes, et des personnes scrupuleuses et généreuses. Nous connaissons aussi des collègues qui ferment les yeux sur des agissements intolérables ou des ministres trop heureux de rehausser de leur présence le vernissage d'une exposition de pièces exportées illégalement de leur pays, ou encore de grands musées publics lancés par de célèbres marchands. Vous voyez ce dont je veux parler, on en a parlé un petit peu ce matin. Bref, à ce stade, et plutôt que de camper sur nos positions respectives, de multiplier les résolutions à l'issue de nos conférences, je suis à la recherche personnellement de nouveaux champs d'action, et je me demande d'ailleurs même s'il n'est pas temps d'envisager une sorte de nouveau dialogue entre les différents acteurs de bonne volonté, notamment dans le prolongement de la moralisation jusqu'à un certain point dont on assiste chez certains collectionneurs dont parlait Jean-Yves Marin ce matin. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler durant ces deux jours, mais en préparant cette intervention, j'ai retrouvé dans ma documentation des documents intéressants. Même si un peu anciens, l'argumentation finalement n'a guère changé, et puis c'est assez rare d'avoir des collectionneurs expliquant leurs arguments noir sur blanc. Et il montre à quel point aussi, dans l'esprit de certains, les exportations illégales, le pillage, la restitution et la muséologie sont liées. Alors je m'excuse, c'est un peu long, mais peut-être que ça va vous réveiller puisque c'est l'heure de la sieste. Et je vais vous montrer ce texte. Je vous demande de les lire assez vite parce que j'en ai mis trop et je ne voudrais pas passer tout mon temps à vous faire lire des textes que je n'ai pas écrits. Mais voilà, un des grands collectionneurs bien connus à Genève, dans le journal des arts, disait, je vous laisse lire. Argument habituel. Alors, autre argument, bien sûr, c'est le fait que les pays ont d'autres priorités, ce qui est vrai et ce qui est légitime. Alors, l'autre argument, c'est l'internationalisation et le fait qu'il n'y a pas de raison que ça reste dans un pays, ce qui renvoie aussi à l'idée de musée universel, qui est aussi un des arguments actuellement. Alors, ces propos font partie d'un portrait croisé de deux collectionneurs, tous les deux genevois d'ailleurs. Et donc Jean-Paul Barbier, alors l'idée qu'un objet d'art primitif ne peut avoir plus de 40 ans, bon, on suppose que c'est en bois. Je n'ai pas résisté à l'idée de vous mettre une petite image d'un objet que je connais bien et qui lui date de 1300 ans et qui vient d'Afrique centrale. Alors je continue quand même la lecture. Ah, donc c'est l'idée que les collectionneurs ont le même rôle que le British Museum. Alors évidemment, quand on achète à travers des marchands ou à travers des ventes aux enchères, il est difficile de savoir d'où ça vient. Alors, pour ce panel sur les patrimoines en péril, attachons-nous plus particulièrement au pillage et à l'archéologie. Et je redonne la parole à Georges Ortiz, qui a quand même aussi dit des choses assez gratinées. Ça, c'est pourquoi les archéologues du Nord se solidarisent avec ceux du Sud. Ça, il faut remettre ces textes quand même en contexte. Hein. C'était à l'époque de la grande mobilisation des collectionneurs et Georges Ortiz, en tous les cas, avait le courage de ses opinions contre l'adoption du nid droit. Alors, ces arguments sont révélateurs et méritent qu'on s'y arrête. Reprenons-les peut-être rapidement. Pour ce qui est de la solidarité entre archéologues du Nord et du Sud, disons qu'elle est surtout fondée, me semble-t-il, sur une conception commune de la recherche archéologique, qui, depuis longtemps, va bien sûr bien au-delà de l'accès et l'analyse des collections. Les collectionneurs sont obsédés par les collections, ce n'est plus fort le cas des archéologues. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, atteints de collectionnite aiguë. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de comportement relativement addictif du collectionneur. On sait la folie de la collection. Quant au politiquement correct, il me semble pas, même s'il est largement répandu de nos jours, qu'il explique tout, et en l'occurrence la solidarité entre chercheurs de quelques continents qu'ils fussent. Alors, autre argument, c'est bien sûr les fouilles clandestines qui représenteraient au maximum 15% des cas, le fait que la grande majorité des trouvailles est accidentelle, que c'est grâce au marché qu'elles sont sauvées, que les pays d'origine n'ont pas les moyens pour les conserver et les étudier, qu'ils ont d'autres priorités, c'est, il faut bien le reconnaître, vrai dans un certain nombre de cas. Et que les archéologues, je viens de le dire, se solidarisent pour des raisons qui relève du politiquement correct. Alors, les fouilles clandestines ne représenteraient au maximum que 15% des cas. C'est difficile à dire. La situation est évidemment extrêmement variable d'un pays à l'autre. Et on vient de parler du Nigeria. Eh bien, c'est clair que le Nigeria n'est pas le Congo ou l'Angola. Personnellement, et ça tombe bien que j'intervienne juste après l'intervention précédente, ce que je trouve particulièrement interpellant, c'est que dans le cas de certains arts, et ça a été aussi mentionné ce matin à propos de l'Afghanistan et autres, on est là face à des cultures archéologiques, à des traditions sur lesquelles on ne connaît rien. Alors, je sais que ça peut faire hurler certains, mais fouiller la énième tombe d'une civilisation qui a été par ailleurs étudiée des dizaines et des dizaines de fois, où on a fouillé au cours du temps des milliers de tombes, la perte est certainement regrettable, mais elle est infiniment moindre que véritablement l'annihilation de cultures sur lesquelles on ne connaît rien et où, comme on vient de nous le dire, NOC, c'est pratiquement irrécupérable maintenant. Je crois qu'on aurait aussi tort de négliger l'importance des trouvailles accidentelles. Et là, et c'est ce qui va m'inspirer pour la suite de cette présentation, même si on ne peut pas dire que la destruction est voulue, c'est clair que nous avons collectivement des responsabilités de ce niveau-là. Et je pense donc que l'idée que la perte de l'héritage culturel commun par négligence dépasse de loin l'effort de tous les pilleurs réunis du monde mérite, je pense, qu'on s'y attarde. Et je vais donc m'attarder à ça, d'autant plus que, contrairement à ce que, quand j'avais été sollicité par Anne et Eric pour venir, j'ai compris que Boris Vastiaux allait parler, lui, des problèmes de restitution et des relations entre le musée de Tervuren et les musées du Congo et d'autres musées. Par conséquent, je vais lui laisser la parole et éventuellement j'interviendrai. Mais je me suis donc dit qu'il valait peut-être mieux, qu'il était peut-être plus intéressant pour nos débats de me concentrer sur des exemples liés à la destruction des sites par le développement, finalement. Et c'est bien évident qu'on ne va pas interdire le développement en Afrique, mais ce développement a un impact considérable et qui est, à mon avis, encore plus important que le trafic et que le pillage. Et je vous donne des exemples de Bienvenue Guem Guem, qui, dans sa thèse récemment, s'était amusé à faire un calcul sur l'impact des travaux routiers, rien que des travaux routiers, dans son pays, le Cameroun. Alors, cela va amener de plus en plus d'impact. C'est un domaine où le patrimoine est particulièrement menacé et, comme nous venons de le voir depuis toujours, les collectionneurs tirent argument de cela pour justifier en disant « nous, on fait finalement ce que ne font pas les États de ce point de vue-là ». Alors, je crois qu'il faut agir d'autant plus que, en Occident, eh bien, ça fait au moins une vingtaine d'années que l'on a pris des mesures contre la destruction occasionnée par le développement, par la construction des TGV, des autoroutes, des aéroports, des zones industrielles, et qu'il y a aussi moyen de transposer le principe pollueur-payeur. C'est représente un surcoût absolument minime, minimorum pour les aménageurs, mais pour les chercheurs que nous sommes, c'est l'occasion d'avoir des moyens absolument inespérés. Alors actuellement, clairement, l'archéologie connaît, par le biais de ce qu'on appelle l'archéologie préventive ou de sauvetage, une révolution qui transforme complètement nos pratiques, notre connaissance du passé. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, par exemple, on avait l'idée que le néolithique anglais n'avait rien à voir avec ce qui se passait du côté de la France. C'est parce qu'on s'était concentré sur un certain nombre de sites rituels bien particuliers du côté anglais. Maintenant, avec l'archéologie préventive, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes choses de part et d'autre de la Manche et que, contrairement aux fantasmes de nos amis anglais, leurs différences ne remontent pas entre eux et l'Europe au néolithique. Par ailleurs, différentes façons de faire de l'archéologie, il faut innover sur les pratiques de chantier. Avec des moyens accrus, et alors essentiellement aussi, parce que je pense que c'est aussi une chose sur laquelle nous devons débattre, il n'y a pratiquement pas de vocation de jeunes archéologues en Afrique, parce que ça semble des professions sans issue, à part quelques exceptions dans certains pays. Ici, on a l'occasion de dire, mais faites de l'archéologie, vous allez voir qu'il y a des débouchés, il y a moyen de faire. Et donc je pense qu'on peut là avoir une convergence d'intérêts qui est stratégiquement tout à fait importante et intéressante. Alors ça va, et je vais passer très vite parce que le temps passe, Monsieur le Président. Je voudrais quand même insister sur certains aspects liés à l'impact de notre pratique et du fait que nous essayons de développer cette archéologie préventive, notamment à travers une spin-off de l'Université de Bruxelles qui s'appelle HMS, et nous sommes en train de tirer déjà des leçons de ces premières années d'intervention en partenariat avec les collègues intéressés dans les différents pays. Alors je voudrais vraiment insister, parce qu'il y a tout un panel consacré à ça. Bien évidemment, nous devons être plus explicites au niveau de la protection de l'héritage culturel dans le domaine du développement des infrastructures. Clairement, il y a beaucoup à faire. Les législations, si elles répriment le trafic et le pillage, ne font pas assez du point de vue de lier et d'imposer systématiquement des séances d'archéologie préventive. Ça doit être lié à l'impact environnemental. Là aussi, malheureusement, la préoccupation pour le patrimoine naturel l'emporte sur le patrimoine culturel. Les codes miniers doivent être aussi intégrés et adaptés. Et alors aussi, même si par exemple la Banque mondiale a dans ses operational guidelines des lignes bien spécifiques, nous apprenons et nous découvrons que suivant les pays et la demande et la pression que mettent les autorités locales, eh bien, la Banque mondiale applique ces choses de façon assez élastique. Quant à l'Union européenne, c'est plutôt l'exception que la règle qu'elle prenne un volet d'impact environnemental pour les milliers de kilomètres d'infrastructures routières et autres qu'elle construit. Et je ne parle pas de la Banque européenne d'investissement, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement et d'autres, bien sûr. Alors l'accès à l'information, ça c'est un vrai problème aussi au niveau des collègues dans les différents pays, d'autant plus que bien souvent les projets impliquent de nombreux ministères et on est alors face à quelque chose qu'on connaît très bien en Afrique comme en Europe, c'est les cloisonnements entre responsables, les cloisonnements des ministères. Mon collègue Christophe Bida, qui sait de quoi il parle parce qu'il a été longtemps directeur de la culture au ministère de la Culture au Cameroun, a montré récemment dans une conférence qu'au Cameroun, pour ces problèmes-là, eh bien, il pouvait y avoir jusqu'à 8 ministères différents impliqués. Alors l'intervention, je vais passer très vite parce que mon temps est compté. L'intervention aussi implique... Je vous ai mis quand même quelques diapositives pour plonger quand même un instant dans l'ambiance de l'Afrique centrale. Voilà le fameux pipeline qui relie le Tchad à la côte atlantique au Cameroun dorénavant. Donc tous les aspects de... C'est un pipeline qui faisait 1076 km de long. Je peux dire 76 puisqu'on est en Suisse et que je suis belge. Et donc on a parcouru ça deux fois à pied. Et puis, déterminer l'importance des sites, ne pas oublier aussi que, ça a été aussi évoqué, il y a des bois sacrés, il y a des abris sous roches, il y a des grottes, il y a toute une série de lieux qui sont importants pour les populations actuelles. Et alors aussi, choisir en fonction de ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'il faut faire, ça s'apprend, c'est compliqué. D'autant plus que le pipeline peut être éventuellement sur vos talons et que les gens rebouchent au fur et à mesure derrière, donc il faut avancer vite. Et en Europe, par exemple, on se rend compte que, avec l'amélioration de la planification des grands travaux, lors des travaux routiers, par exemple, il y a 20 ans, on faisait 100 km d'autoroute en 4 ans. Actuellement, on le fait en moins de 2 ans. Et par conséquent, il faut pouvoir faire de l'archéologie de plus en plus rapidement. Et donc, il y a toute une série de stratégies. Je vous les ai mis pour vous illustrer la complexité et la façon de travailler. Mais il y a là vraiment un tout nouveau domaine où nous devons réapprendre en quelque sorte notre métier. Et parfois, ça devient assez chaotique d'ailleurs. Alors ça, clairement, il ne faut pas se contenter de faire ça. Ça fera plaisir à Christophe Peltz. Je pense aussi qu'il faut avoir une approche complètement globale, et pour moi un des plus beaux exemples c'est le musée d'Orsay-Houbero, mais dont il nous parlera je pense en partie demain, donc je ne vais pas, là je vais pouvoir avancer aussi. Et donc personnellement je pense que cela va augmenter considérablement les données, mais alors il faut aussi voir ce que l'on fait, puisque c'est souvent une littérature grise dont la propriété est celle des payeurs, et c'est un vrai problème en Europe et ça va devenir un problème en Afrique, et alors il y a des problèmes d'entreposage du matériel, de propriété des résultats qui sont poser, bien sûr, tout un problème de contrôle de qualité, puisqu'il y a un risque, évidemment, bien sûr, c'est qu'à partir du moment où c'est une archéologie contractuelle, comme on peut dire même en plaisantant, mais qu'à moitié c'est du business archéologie, il y a évidemment un risque que les aspects financiers de rentabilité l'emportent sur la qualité du travail scientifique, et donc il faut aussi des systèmes de contrôle extérieur. Cela dit, la situation, et c'est pour ça que je fais ce plaidoyer, je pense que nous avons aussi un certain nombre d'atouts pour pouvoir développer ça, avec cette volonté de plus en plus importante de prendre en considération l'héritage culturel, l'augmentation du tourisme, aussi le corporate social responsibility, qui est quelque chose qui est très important dans le monde de l'entreprise. Et donc là, nous avons quand même un certain nombre d'atouts dans notre jeu pour essayer d'innover en matière de préservation de ce patrimoine. Et je crois qu'à ce moment-là, on peut répondre à la fois aux arguments de ceux qui tirent argument du pillage pour qui tirent argument des destructions pour justifier le pillage, et que nous allons trouver des nouveaux moyens pour faire progresser les connaissances et préserver le patrimoine culturel. Et donc, je le répète, il y a un travail énorme à faire pour sensibiliser les différents acteurs. Et je voudrais finir pour vous rappeler l'appel de Nouakchott. And I apologize for the English speaker, but this, I think, summarizes quite well what was felt. I think there is a need for getting our act together and working on that topic as well. Je vous remercie.
Bien, merci Pierre.